Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde. Bienvenue au guide de l'auto, édition du 28 août 2021. Édition où on peut vous parler du nouveau guide de l'auto 2022, Germain.
Oui, le guide qui est sorti cette semaine, qui est en vente dans tous les magasins qui le distribuent normalement. Une nouvelle édition, on est très fiers, on a travaillé très fort. Match comparatif, dossier exclusif, bref, une formule comme par les années passées. Et c'est un nouvel ouvrage à ajouter à la bibliothèque. Un ouvrage qui fait beaucoup jaser par sa page couverture, Antoine.
Ben écoute, je veux que tu m'en parles parce que toute la semaine, j'ai été en tournée de promotion pour le guide de l'auto et on m'a posé une seule question de façon unanime. Pourquoi avoir mis un Hummer sur la page couverture du guide de l'auto?
Ben, c'est une excellente question, mais c'est un excellent moyen de faire parler du livre. Et à chaque année, c'est un dilemme. Il y a des années où c'est plus évident que d'autres de choisir le véhicule sur la page couverture. Je pense qu'on peut mentionner que cette année, c'était pas unanime. C'était pas unanime comme choix. On avait pris une direction différente initialement pour se revirer de bord, pour avoir le Hummer. Parce que, à mon avis, ça prend un coup d'éclat sur une page couverture. On doit attirer l'attention. C'est le retour d'une marque qui a été forte, une marque qui a fait énormément jaser par le passé.
Hummer. Mais qui est symbole de doigt d'honneur à l'environnement.
Oui, et là, on revient avec un doigt d'honneur à l'environnement, mais vert, hein, disons ça comme ça. On revient avec un Hummer électrique, ce qui est un peu paradoxal dans notre imaginaire. C'est un véhicule qu'on n'a pas vu de près encore, qu'on n'a pas conduit. Un véhicule qui pique notre curiosité, qui a attiré notre attention. Et c'est pour cette raison, c'est toutes ces raisons-là, finalement, qu'on trouvait intéressant de le placer sur la page couverture. Et visiblement, on a eu raison parce que, justement, ça a fait jaser.
Évidemment, mis à part ça, dans le guide de l'auto, on retrouve nos matchs comparatifs. Puis oui. Cette année, on en a fait un durant l'hiver.
Oui, donc un match comparatif au cours duquel on a mis nez à nez des VUS sous-compacts. Et effectivement, ce qui est la nouveauté, c'est qu'on l'a fait l'hiver. Comme le livre sort à l'été généralement et qu'on veut avoir là, le contenu le plus à jour possible, normalement, c'est fait au printemps, c'est fait au début de l'été. Mais là, on voulait donner une saveur un peu plus estivale, une saveur un peu plus hivernale. C'est des véhicules à quatre roues motrices, hein, donc ça ajoute une valeur intéressante de les mettre.
Mais des fois, avec le Chevrolet Trailblazer, on se le demandait.
On se le demandait, effectivement. Et vous aurez peut-être deviné qu'il n'a pas fini premier.
Non.
Mais donc, c'est intéressant, justement, de les mettre à l'essai l'hiver. On les a mis à l'essai à la piste de Mécaglisse, donc pas simplement en conduite là, urbaine et sur route. Donc, un essai vraiment, vraiment très complet. Un essai électrique aussi cette année avec les quatre vedettes. Donc, Mustang Mach-E, Tesla Model Y, Volvo XC40 Recharge et le nouveau Volkswagen ID4. ID4 qui avait un peu qui traînait de la patte un peu malgré lui parce que c'était le seul qui avait deux roues motrices au moment de l'essai parce que la version à quatre roues motrices n'est toujours pas arrivée. Donc, on a dû se contenter de cette version-là. Mais bon, vous pourrez lire l'essai complet là, dans le livre.
Puis évidemment, juste au moment où on se parle, on aurait pu ajouter d'autres modèles qui vont arriver très prochainement. Le Nissan Ariya, il y a un constructeur chinois qui va arriver prochainement avec un VUS.
Mais il faut tirer un trait à un moment. Puis,
c'est ça.
Puis on l'a tiré. Donc, c'est des choix qu'on doit faire et c'est ceux-là qu'on a fait.
De façon unanime, on était autour de la table en discutant des meilleurs choix du marché automobile et on a constaté, Germain, un truc, Les voitures disparaissent, les VUS se multiplient et les véhicules électriques aussi. C'est ça le constat qu'on tire. Et l'autre constat, c'est que les véhicules sont plus chers que jamais. Moi, je trouve que 2022 est une année pivot majeure pour le marché de l'automobile. Les petites voitures disparaissent, les compacts coûtent une fortune, une Civic à un prix moyen de 30 000 $ Qui aurait pu penser ça il y a seulement quelques années?
Une Civic à 17 ou 18 000 $ là, ça existait il y a quelques années. C'est maintenant un véhicule d'occasion, là. Donc ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et non seulement le prix dans la fenêtre, là, donc le prix affiché est plus élevé, mais en plus, comme on est en période de pénurie, il n'y a zéro marge de manœuvre. Il y a zéro marge à la négociation. Donc, on n'aura jamais autant payé le plein prix et attendu un véhicule qu'en ce moment.
Et c'est vrai. Ça va être
ça pour les mois à venir, là. Ça changera pas.
Et c'est sûr que si tu te présentais chez un concessionnaire pour négocier le prix d'une Civic, c'était beau si tu avais 500 $ de rabais. Mais dans le cas d'un Ram 1500,
oui.
Si tu n'avais pas 10 000, tu n'étais pas content.
C'était ordinaire.
Et
là.
Aujourd'hui, oublie
ça. Et les prix étaient basés sur ça.
Oui, c'est ça. Bien, en fait, Chrysler continue dans cette optique-là parce que tu regardes les prix moyens de leurs véhicules. Encore, le PDSF d'un Dodge Durango aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens.
Oui, mais, bien entendu, mais les cours débordent pas, là.
Les cours débordent pas, sauf pour certains modèles où on a... En fait, la Civic, ce n'est pas une voiture rare, la Corolla non plus. Ça, vous allez en retrouver.
Oui, la Civic est assemblée au Canada. C'est sûr que l'approvisionnement pour les concessionnaires, c'est facile. C'est quelques heures de camion, puis c'est réglé, là.
Mais il n'en demeure pas moins que l'ensemble de l'industrie, les prix ont monté et la pénurie fait que les prix sont plus chers en proportion par rapport au PDSF que jamais. Ça, c'est un constat. Véhicules électriques se multiplient. Il y a des marques qui battent de l'aile. Il y a des marques qui se démarquent aussi. Et ça me permet peut-être de faire faire un tremplin vers notre prochain sujet qui est le dévoilement du Genesis GV60. On dévoilait ça cette semaine. Je pense personnellement que la marque Genesis est celle qui va connaître un très grand essor dans les prochaines années.
Et on a la machine coréenne en arrière qui pousse très fort. Et c'était des débuts assez modestes avec les grandes berlines, des véhicules qui n'étaient pas très populaires dans des segments pas très prisés. Pas très prisé au Canada. Ouais. Mais là, on a le GV80, on a le GV70, et là, c'est un véhicule électrique en
premier.
Et même
la G70, oui. Qui connaît quand même un succès considérable.
Mais c'est un produit très sérieux, là. T'sais.
Très sérieux, et dans un marché qui n'est pas dans une pente ascendante, là, on s'entend.
Non, effectivement. Donc, parlons-en tout de suite. GV60, un premier véhicule électrique, finalement, pour Genesis, qui a été dévoilé. On reprend, là, l'architecture, les batteries et tout ça. On ne nous l'a pas dit avec des mots aussi clairs, là.
Ouais.
Mais si on lit entre les lignes, c'est exactement ça. Donc, de véhicules comme la Kia EV6, là, par exemple.
Ouais.
On va tous partager la même technologie. Donc, on le présente comme un VUS, là, mais on va dire ça vite. Ça veut dire quoi en 2021-2022, un VUS? Plus grand-chose, là. Quand
c'est intéressant que tu amènes ça. Je vais me permettre de faire un bémol parce que il y a quelques beaux médias branchés du plateau qui m'ont contacté cette semaine pour encore
taper
sur le clou. C'est effrayant, M. Joubert, la multiplication des VUS. Avant de me dire ça, là, éduquez-vous un peu. Parce qu'un Hyundai Venue, c'est un VUS en 2022.
Oui.
Et ce n'est pas un VUS.
Ben non.
Le mot VUS n'est pas synonyme d'engin polluant.
Non.
Alors, arrêtez d'utiliser ce mot-là.
Et nous, on a fait qu'en parler, là. C'est pas nous
non,
qui...
Non, non, mais c'est même pas... Je veux même pas embarquer dans le terrain de... Parce que, bon, cette semaine, on m'a lancé des...
Des grosses roches,
parce que j'ai osé parler d'un Ford Bronco à Salut Bonjour. Puis, je répliquerai pas à ça, parce que les extrémistes de gauche qui en ont parlé ne vivent visiblement pas sur la même planète que 99% des gens qui nous écoutent. Alors, ça donne pas grand-chose de leur donner une réplique, mais faut quand même éduquer un peu les gens sur le fait que le terme VUS... n'a pas la même signification qu'il y avait il y a 25 ans. Il y a 25 ans, un VUS, c'était un Ford Explorer sur un châssis avec un moteur.
C'était un Forerunner.
C'était un camion qui consomme, puis c'était un troc.
Oui.
Aujourd'hui,
avec un châssis en échelle, une grosse mécanique, un vrai rouage 4x4, Mais
aujourd'hui,
c'est
le
ça,
terme VUS, c'est tout ce qui est un petit peu plus haut qu'une Honda Civic. Là. C'est pas plus dur que ça.
Et on a fait la blague quelquefois, la Pontiac Vibe de dernière génération qui était offerte avec quatre roues motrices, qui avait un peu de cladding. Là. Ben, aujourd'hui, là, ce même véhicule-là sera vendu comme un VUS, c'est certain.
On nous vend un Nissan Kicks comme un VUS, oui, qui est une Versa avec des moulures, on s'entend.
Oui, oui, puis un toit orange. Là.
Et je me permets de mentionner que le Nissan Kicks consomme 15% moins d'essence que la Nissan Micra.
Eh, voilà.
Alors, je voulais juste apporter cette précision-là parce que...
VUS n'égale pas pollueur.
Mais il y en a.
Il y en a, oui. Mais il y a une nuance à apporter.
Je me permets de condamner peut-être l'arrivée du Grand Wagoneer. Tu sais comment j'aime, oui, j'aime l'image ou, si tu veux, l'histoire du Grand Wagoneer, mais le nouveau Grand Wagoneer avec un V8 qui fait 17 litres au 100 qui vient de débarquer sur le marché.
Un châssis de rame, là.
C'est du jument foutisme à l'américaine sans aucun souci environnemental. Et ça, peut-être qu'on peut condamner ça en 2022. Il y aurait dû avoir un effort de fait, ne serait-ce que pour électrifier ce produit-là et rendre... Sans dire éco-énergétique, le rendre moins polluant que ce
Mais en même temps, il répond à une demande qui est forte, et aux États-Unis, ça va être un très grand succès, je suis certain.
Absolument. Autre nouvelle, rappel de la Chevrolet Bolt, on n'a pas le choix d'en parler, c'est un rappel massif, c'est un rappel d'importance, mais qui personnellement ne m'inquiète pas. Je pense que GM fait juste ses devoirs pour rassurer ses consommateurs.
Oui, effectivement, donc c'est des cas isolés. On rappelle 75 000 Chevrolet Bolt au Canada, aux États-Unis, donc des véhicules 2017 à 2022, donc des gens qui ont pris possession de leur véhicule cette semaine, ben le véhicule est déjà subit déjà un rappel.
Ouais.
Et donc il va falloir retourner chez le concessionnaire. Et ce qu'on propose entre-temps, c'est de ne pas charger plus haut que 90% de la batterie.
Parce que c'est suite à des risques d'incendie. Il y a eu quelques cas.
Oui, exactement. Donc, on ne prend pas de chance chez GM et on rappelle tous les véhicules. C'est un rappel qu'on estime à un peu plus de 1 milliard de dollars en coûts que GM va devoir assumer.
Déjà que GM ne fait pas d'argent encore avec ses voitures électriques.
Et il faut peut-être le mentionner, et ça, GM a été assez discret par rapport à ça. GM ne fabrique pas ses batteries. Donc, c'est finalement le sous-traitant qui fabrique et qui développe ces batteries-là qui risque de se faire taper sur les doigts. Mais cette semaine, tout le monde associait feu à GM. Mais bon, GM, oui, assemble le véhicule au complet, mais la batterie, c'est un sous-traitant.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
On va parler de quelques véhicules qu'on a conduits, Germain, dans les derniers jours, semaines. Puis je commence. Bon, je vous parlais de Genesis un peu plus tôt. Je vais vous parler du GV70 que je conduis encore aujourd'hui et c'est un véhicule qui me passionne. Qui aurait dit que j'aurais été passionné par un VUS compact de luxe?
Coréen.
Coréen en plus. Mais ce véhicule-là, j'ai pu le conduire quelques heures avant qu'on envoie le guide de l'auto à l'imprimerie, ce qui m'a permis de discuter avec quelques autres auteurs du livre pour en arriver à la conclusion que ce véhicule-là se trouve aujourd'hui au sommet de la catégorie dans le segment des VUS compacts de luxe devant l'Audi Q5.
Il en offre énormément pour le prix qu'on va payer.
Oui, on l'a placé devant l'Audi Q5, devant l'Acura RDX, c'est quand même pas rien. La qualité, l'efficacité de ce véhicule-là, l'élégance, la beauté, les lignes, l'originalité, la présentation intérieure, toute la technologie qu'on retrouve là-dedans, ça en fait un véhicule exceptionnel. Et pour moi, c'est un coup de cœur de l'année, ce véhicule-là. Évidemment, on nous a servi les versions les plus luxueuses, les plus performantes.
Les plus beaux intérieurs aussi, hein, parce qu'on a osé un peu, et là, je sais que je me répète, mais un intérieur bleu, là, ça fait tellement différent des intérieurs gris foncé ou noir.
Il y a 8 choix de couleurs intérieures avec ces produits-là. Vous pouvez avoir du marron, du rouge, du couleur tabac. Vous allez avoir, du gris, du noir... des cuirs de couleur ivoire et du marine avec surpiqûre rouge. C'est magnifique. Bref, il y en a pour tous les goûts. 49 à 75 000 $ pour ce véhicule-là. Le véhicule que je conduis, c'est la version tout équipée à 75 000 qui rivalise directement avec un SQ5. Est-ce que c'est aussi rasoir en matière de conduite qu'un SQ5? Non. Mais c'est quand même... Je dirais qu'on est à 90 % des performances d'un SQ5 en matière de maniabilité. Un point qui m'agace, l'assise du siège qu'on ne peut pas ajuster assez bas.
C'est un défaut de bien des véhicules coréens. L'assise, comment est l'assise? Parce que souvent, pour les gens avec des plus grandes jambes, l'assise va être un peu courte. Est-ce que c'est le cas?
Ça va. Oui. Mais c'est l'ajustement en hauteur qui est un problème. Il faudrait un jour dire aux Coréens qui développent ces véhicules-là d'asseoir un Américain dedans.
Qui mesure un peu plus que 5 pieds 4.
Tu sais, pour vrai, ça n'a aucun sens.
Ouais.
Parce que moi, à 5 pieds 10, là, je suis pas un géant.
Non.
À 5 pieds 10, je suis positionné trop haut. Et c'est le principal irritant pour moi de ce véhicule-là. Peut-être avec un petit délai à l'accélérateur, mais qu'on va sentir davantage avec le 4 cylindres qu'avec le 6 cylindres, ça c'est sûr. Puis, un point qu'il faut que je mentionne, si vous optez pour une version à moteur V6, vous allez avoir d'emblée des roues de 21 pouces.
Ça cogne un peu?
Et non. Et c'est ce qui m'a impressionné, c'est que la suspension est à ce point bien calibrée qu'on a l'impression que le véhicule amortit quand même très bien les chocs et que les roues ne sont pas celles qui mangent les coups, comme on va le sentir avec un GLC 43 AMG, par exemple, qui est épouvantable à ce niveau-là. J'ai vraiment trouvé que c'est un produit impressionnant. Et en plus, garantie 5 ans, service complet, un sérieux avantage par rapport aux Allemands, en espérant bien sûr que la fiabilité soit supérieure, mais disons que ce ne sera pas du rabat.
Non. De mon côté, je me suis déplacé à la piste de le Canadian Tire Motorsport Park à Bowmanville, en Ontario, pour conduire deux voitures, deux berlines américaines qu'on attendait, nous, les passionnés, avec...
Je veux dire, aller violenter deux berlines américaines.
Oui, parce qu'elles en ont mangé de la misère pendant ces quelques heures qu'on a passées sur la piste. On parle bien sûr des Cadillac CT4 V Blackwing et CT5 V Blackwing. Deux voitures qui existent parce que c'est probablement dans les dernières années on va pouvoir, en tout cas du moins dans le cas de la CT5V, où on va pouvoir développer et vendre ces voitures-là sans avoir trop de pénalités sur le plan environnemental. Moi, c'est vrai. Oui, la CT4 est plus agile, plus petite, plus légère, et ça se ressent là sur la piste définitivement. Mais à l'intérieur, bon, c'est un petit peu plus coussi coussa. Ça fait encore très très ATS, mais
c'est une ATS.
Oui, et l'habitabilité c'est limité. Il y a pas tant de place que ça.
Je me permets de te couper pour dire que j'ai croisé, en m'en venant ce matin ici à Montréal, un taxi écrit « Bonjour ».
Oui, oui.
Cadillac
CT4. Je l'ai vu aussi il y a quelques semaines. Oui.
Incroyable. C'est à peu près la pire voiture taxi qu'on puisse acheter. Il n'y a pas d'espace.
Parce que dans un taxi, on doit prendre place à l'arrière. Et à l'arrière, il n'y en a pas de place. Donc,
qui a pensé à ça, je ne sais pas. J'ai trouvé ça très original.
Oui, mais mon coup de cœur, c'est vraiment la CT5V
Blackwing.
Et on a une berline de luxe sportive avec un V8, 6,2 litres, suralimenté, roue motrice arrière et la boîte manuelle qui est offerte. Une boîte manuelle à 6 rapports.
Avec une puissance de?
Un peu plus que 668 chevaux.
Oui. Chevaux avec une boîte manuelle pour une berline propulsée.
Oui,
bonjour,
coûte,
la visite.
Ça coûte 100 000 $ et plus. C'est extrêmement cher comme voiture. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Quand on est embarqué sur la piste, et j'ai passé de la première à la deuxième vitesse en l'écrasant du plus fort que je pouvais, j'ai eu un feeling qui ne se décrit même pas. C'est magique. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et je m'amusais à penser et à réfléchir. Et là, je réfléchis à voix haute. Qu'est-ce qu'on a comme autre berline américaine aussi radicale? La Charger Hellcat Red Eye White Body avec un châssis complètement dépassé et pas de boîte manuelle. Là, on est complètement ailleurs. Là, avec
chez Lincoln?
Non, rien du tout. Rien du tout. Donc, on offre une voiture finalement qui est unique
en son genre.
Et Et là, si on pousse un peu plus l'exercice dans cette gamme de prix-là, on a quoi? On a une Corvette. Une Corvette qui va être moins puissante, hein, avec les
qui n'a pas la même expérience.
Non,
c'est sûr.
Je le sais, bien entendu.
Ah, c'est vraiment.
Mais là, la 7,5V Blackwing, tu peux l'utiliser toute l'année. C'est plus puissant qu'une Corvette. Et t'as une boîte manuelle. Mais c'est parfait.
C'est parfait.
Voilà.
Bon, c'est, t'as pas une 4 roues motrices?
Non, ben non, c'est correct pas, de même.
Mais tu me mentionnes utiliser toute l'année.
Ben
c'est
oui,
peut-être pas la voiture.
Bon,
oui.
Avec des bons pneus d'hiver, là.
Ça fonctionne.
Oui.
Maintenant, on peut peut-être comparer ça à quoi une C63S AMG en oui. termes de puissance.
Oui. Mais même pas... chez Cadillac, là, on n'était pas sûr à qui on la concurrençait parce qu'on nous a parlé de la M2, de la M3 puis de la M4. Là. Donc, on s'adresse à des gens qui veulent acheter une voiture radicale, une voiture de puriste. Et, tiens, on dit toujours que la boîte manuelle est morte, mais jusqu'à maintenant, les commandes sont de 60% pour la manuelle. C'est incroyable. Énorme. C'est énorme.
C'est extraordinaire.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Bien humblement, Germain, tu sais que tous les Antoine sont de bons pilotes automobiles, mais il y en a par contre qui sont meilleurs que d'autres et on en reçoit un qui se démarque du lot, clairement, cette semaine. Antoine Lestage est avec nous, pilote de rallye chevronné. Bonjour, Antoine.
Bonjour.
Bonjour, messieurs, ça va bien?
Absolument. Merci de prendre le temps de nous parler parce que, évidemment, on voulait en savoir un petit peu plus sur ton parcours personnel et sur le monde du rallye. Hein,
qui est très méconnu du grand public.
Absolument.
Et même de l'univers automobile. Là, peut-être que ton nom résonne auprès de certains auditeurs qui ont suivi la scène canadienne de rallye, mais et avec raison d'ailleurs. Mais malheureusement, j'ai l'impression que le rallye n'est pas... n'est pas regardé, n'a pas assez d'attention à sa juste valeur. Avant d'aller plus loin, Antoine, est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ton parcours personnel? Comment tu as... Antoine, quand je dis Antoine, c'est Antoine Lestage, hein, n'est-ce pas?
Ouais, je
Antoine,
sais que tu m'adresses plus la
non,
parole.
C'est ça. Je te pose plus de questions, toi, ça fait longtemps. Donc, Antoine Lestage, ton parcours personnel, qu'est-ce qui t'a amené à devenir pilote de rallye?
Bon, moi, ben, je suis tombé dans la soupe très jeune, comme on dit. Mon père pilotait en rallye au Canada, donc très jeune, même quand j'étais bébé, là, plus loin que mes souvenirs peuvent m'amener. Là.
Ok.
J'ai des photos où j'étais sur des événements, puis je dirais que c'est plus vers l'adolescence, là, aux alentours de 13-14 ans, là, que j'ai vraiment eu la piqûre, puis je me suis dit, je veux faire ça à un moment donné, c'est sûr, puis... aussitôt que j'ai eu mon permis de conduire, ben mon père m'a montré certaines techniques de base, déjà le freinage du pied gauche, des choses comme ça. Donc j'ai tout de suite commencé à pratiquer aussitôt qu'il neigeait. Je commence à être un peu plus vieux, donc j'ai connu plus jeune des plus gros hivers que ce qu'on a en ce moment.
Fait que, OK. Donc, ah oui, hein, t'as vu une diminution de
De la neige, de la glace et de ce truc-là.
Définitivement. Quand j'avais 16-17 ans, là, il me semble qu'on avait des... Ça fait déjà... J'ai 48 ans, là, fait que ça fait déjà 30 ans. Fait que il me semble qu'on avait des plus gros hivers, puis on avait plus souvent l'occasion là, d'aller pratiquer. Là, on partait la nuit, on demeurait en campagne, puis moi et mon frère, on allait se pratiquer. Puis de fil en aiguille, là, on venait pas d'une famille riche. Là, c'est la passion puis le travail qui m'a amené où est-ce que je suis... À un moment donné, j'avais une petite voiture, une petite Toyota Corolla qui était ma voiture de tous les jours que j'ai préparée pour le rallye. Puis
okay.
J'ai eu quelques bons résultats. J'ai réussi à vendre la voiture. Puis avec des amis, on a préparé une voiture 4 roues motrices. Puis j'ai gagné le titre de recrue de l'année au Canada en 2001. Puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai monté les échelons. J'ai eu la chance d'être bien supporté aussi, de bons commanditaires se sont joints à moi au fil que ma carrière évoluait.
Parce que c'est toujours le nerf de la guerre, les commanditaires, si je me trompe pas, parce que, ouais. Bon, d'un, il faut vivre, et de deux, il faut avoir une voiture, il faut l'entretenir, ça prend le mécanicien. Comme c'est des voitures qui sont poussées à bout, ben, les bris sont fréquents, et il faut demeurer performant, là.
Ben, c'est ça. C'est sûr que ça se fait pas non plus, ça tombe pas du ciel, ça prend du travail. Donc, je ne cacherai pas qu'il y a énormément de propositions qui ont été envoyées à différents partenaires potentiels. Puis, il faut être capable de se vendre aussi.
Bien sûr.
Ça, j'ai jamais été gêné de... J'ai toujours été, grâce à mon père qui m'a transmis ça, j'ai toujours été quand même un bon communicateur. Puis j'ai réussi à vendre des programmes, mais j'étais capable de livrer la marchandise aussi. On a quand même eu des bons résultats assez tôt dans ma carrière. Puis ça a fait que les commanditaires se sont joints à moi. Puis aussitôt qu'on s'est mis à gagner, mais ça a été encore plus... on a été encore mieux supportés. Puis... j'ai remporté mon premier rallye au niveau national, championnat canadien en 2004, mon premier championnat en 2006. Puis maintenant, je compte 10 championnats. J'ai tous les records au Canada en termes de victoires, nombre de points marqués, plus grand nombre de titres. J'ai été intronisé au Temple de la renommée du sport canadien en 2016 aussi.
Ouais.
J'ai remporté un titre aux États-Unis en 2010 aussi parce que pendant quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir participer et au championnat canadien et au championnat américain. Bref,
t'es capable de te vendre, on le constate. Là.
t'as un beau portfolio.
Ouais, ben c'est quelque chose dont je suis fier. C'est sûr que c'est des choses qu'on regarde. Quand on est dedans, on s'en rend moins compte, mais c'est plus par après. Des fois, quand on prend le temps de regarder les statistiques, c'est quand même, je suis quand même fier. Mais je vous cacherai pas, messieurs, je suis un peu déçu d'être moins actif actuellement. Quand Subaru Canada a mis fin à leur programme avec leur équipe à la fin de 2017, moi, j'étais pas prêt à arrêter. On venait de remporter encore un autre championnat. Là, depuis ce temps-là, j'ai fait quelques événements en 2018-2019, puis la pandémie est arrivée. Et puis là, naturellement, c'est tombé au point mort. Mais heureusement, je suis impliqué en championnat du monde des rallyes avec une équipe où je suis ouvreur pour l'équipe M-Sport. Donc, au plus haut échelon du championnat du monde pour un pilote qui est en WRC, le jeune Britannique Gus Greensmith.
OK.
Donc, j'ai encore un pied dans le sport qui me passionne, puis je reste informé puis connecté, c'est sûr.
Tu mentionnais tantôt, évidemment, que tu étais capable de bien te vendre auprès des commanditaires, puis on le sait que la commandite en course automobile, c'est plus que primordial. Quel genre de visibilité tu es capable d'offrir à un commanditaire qui s'intéresserait à toi dans un contexte où tu roules sur une année complète, là, par exemple? Parce que le commanditaire veut évidemment avoir un retour sur investissement, là.
Ben c'est effectivement, c'est le nerf de la guerre. Puis la chance qu'on a avec le championnat canadien des rallyes, c'est que le championnat est toujours demeuré télévisé. Donc je sais que c'est pas toujours aux heures de grande écoute, mais quand même le fait que le championnat soit et à RDS et TSN encore depuis 20 ans, malgré que le sport est méconnu, il y a beaucoup de gens qui savent qu'il y a du rallye quand même. Les gens disent « Ah oui, j'ai vu ça, du rallye, je trouve ça vraiment cool, les gars sont malades. » Donc, les gens savent c'est quoi le rallye sans trop comprendre ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes deux dans l'auto, vous partez juste un à la fois. Donc, c'est connu, mais méconnu en même temps. C'est sûr que pour un commanditaire, ben, il y a différentes choses. Il y a la visibilité à la télé. C'est sûr que quand moi, les années où je roulais, j'étais capable de garantir une visibilité à télé parce que j'étais toujours, si on veut, dans les premiers.
Ouais.
Après ça, ben, c'est de garantir une visibilité sur les événements avec les gens qui se déplacent. Puis là, il y a tout le volet des médias sociaux. Puis en fait, c'est de créer du contenu avec les événements pour offrir aux commanditaires du contenu pour ces médias sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Il peut y avoir des concours qui peuvent être faits. Il y a plein de choses qu'on peut offrir. Un programme est taillé sur mesure dépendamment des besoins de chacun des partenaires. Puis il y a moyen d'offrir une belle visibilité puis faire quelque chose de différent. Puis si on calcule ce que ça peut coûter un beau programme en rallye, c'est quand même moins dispendieux que de s'impliquer en NASCAR ou de s'impliquer en monoplace ou des séries qui sont beaucoup plus coûteuses.
J'y venais à ça parce que Tu me disais qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui s'intéressent au rallye, qui suivent ça. Corrige-moi si je me trompe, mais ma perception du rallye, autant que je trouve ça exceptionnel et passionnant comme type de course, j'ai l'impression que le NASCAR et la Formule 1, par exemple, c'est peut-être le hockey puis le baseball, alors que le rallye, c'est le soccer. On sait que ça existe ici au Québec, mais il n'y a pas grand monde qui suit ça. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques que ce sport automobile-là, qui est vraiment extrême et particulièrement fascinant, soit si méconnu du grand public par rapport à d'autres types de courses?
Bien, je pense que le parallèle que tu as fait est excellent. C'est une question de culture, je dirais, parce que en Europe, c'est complètement différent.
Ben oui.
J'arrive justement sur une manche du championnat du monde en Belgique il y a 2 semaines.
OK.
Et c'est fou, là, je veux dire, les villes, c'est comme une ville comme Montréal, tourne au rythme du rallye pendant une semaine.
Ouais.
Tout le monde sait c'est quoi le rallye quand tu débarques dans une ville de moyenne grosseur en Europe. C'est sur les bulletins de nouvelles le soir à la fin de chacune des journées.
C'est incroyable. Jamais on verrait ça ici.
Jamais, 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 jamais.
Jamais on verrait ça. T'sais, c'est sûr que, comme je disais à Germain un peu plus tôt cette semaine, il y a eu des années où, moi, personnellement, j'ai quand même eu une bonne couverture médiatique. J'ai été souvent sur des émissions de télé. Il y a eu des articles dans les grands journaux quand même qui ont paru.
Okay.
Mais ça prend une machine de communication, mais ça prend une star ou des stars dans le championnat, si on veut, pour amener de l'intérêt des journalistes de grand public. C'est pas facile. Faut faire du démarchage, faut faire des relations de presse. C'est sûr que comme je dis, c'est pas facile. Il y a un intérêt, mais c'est dur c'est dur d'être dans les grands médias, ça, il n'y a pas de doute. Mais je dirais, là, pour résumer ma réponse, là, c'est beaucoup une question de culture. Mais au Canada, c'est quand même au Québec où les gens connaissent le plus le rallye. On va dans le championnat canadien, on va dans d'autres endroits où c'est beaucoup plus méconnu qu'au Québec. Les gens ici, on est peut-être un petit peu plus européens, là.
C'est sûr que le Canada, c'est un calque des États-Unis, donc on comprend que le NASCAR et ce genre de course-là soit plus populaire, puis la F1, c'est la F1.
Mais au Québec, on est différent quand même.
On est différent quand même. Et moi, je me permets de dire que je suis allé voir en Argentine une fois performer Sébastien Ogier. À 3 km du circuit, tu avais des gars avec des caméras ultra puissantes qui étaient juchées dans des arbres pour les attendre, pour le voir passer une demi-seconde.
Et pour avoir la photo,
il y avait des dizaines de milliers de personnes un peu partout à des endroits qui étaient vraiment pas sécuritaires. Mais
c'est la proximité avec la piste.
C'était incroyable, la passion qui était là. Les gens attendaient depuis 3 jours, campaient sur place pour voir une voiture passer à une vitesse folle sans que les roues touche à terre. C'était vraiment, vraiment...
En Argentine, c'est fou la passion pour le sport.
Incroyable.
Puis, pour donner une ordre de grandeur, là, une fin de semaine pour un Grand Prix de Formule 1 comme à Montréal, là, sur 3 jours,
ouais.
Il y a quoi 350 000 personnes qui viennent, qui se déplacent sur un week-end de F1 qui est un week-end qu'on pourrait qualifier d'étant un grand succès.
Ben oui.
Sur une manche du championnat du monde des rallyes dans des pays comme l'Argentine ou en Finlande, des choses comme ça,
ouais.
On parle d'1 million, 1,5 million de personnes qui se déplacent sur un week-end.
Ah, donc,
c'est sûr que l'étendue est plus grande. Comme tu l'as vécu en Argentine, les gens se déplacent d'une spéciale à l'autre.
Ouais.
Il y a des gens en Argentine qui se trouvent à un spot puis couchent là une semaine avant. C'est fou, là. Et puis, dans ces pays-là, ben c'est comme je mentionnais, c'est une question de culture, puis c'est très populaire. Puis c'est ce qui fait que le rallye au niveau mondial est quand même un sport important, parce que les manufacturiers s'y intéresseraient pas comme ils le font actuellement. Quand tu vois Toyota, Hyundai, Ford, longtemps Volkswagen, qui dépensent des millions et des millions et des millions pour... faire valoir la qualité de leurs produits en utilisant le rallye comme moyen de publicité, de marketing.
Ben oui.
Pour eux, il n'y a pas de meilleure plateforme pour démontrer la qualité d'une voiture. Donc, c'est quand même... Tu sais, les pilotes en championnat du monde des rallyes, c'est des gars qui sont payés, des gars comme Ogier, c'est des gars qui gagnent 10-15 millions d'euros par année, là. Ils ont rien envié à
toi, Germain, c'est plus que toi puis moi ensemble.
Ah oui, puis quelquefois même. Quelquefois.
C'est un autre monde là-bas.
Et tu nous disais plus tôt, puis je sais que je ne veux pas te placer dans une position délicate, mais quand on regarde le constructeur Subaru qui s'impliquait en rallye, qui a bâti sa renommée et sa réputation, notamment avec ses prouesses en rallye, la capacité de ses voitures, puis c'est un constructeur qui est dans une position intéressante parce que, bon, on a une belle croissance. Comment t'expliques qu'on ait délaissé, justement, le rallye au Canada?
Ben en fait, je vais permets-moi de te corriger là-dessus. Subaru n'a pas délaissé. Au contraire, Subaru est encore le commanditaire titre pour le championnat canadien des rallyes. Donc, ils sont encore impliqués. C'est encore quelque chose.
Leur implication prend une forme différente.
Ben, ils ont longtemps porté les deux chapeaux. Donc, ils supportaient le championnat et il y avait parallèlement à ça aussi une équipe. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dissous l'équipe. Mais ils ont continué à supporter le championnat. Donc, ils ont encore à cœur le succès du rallye au Canada. Ça fait partie de leur ADN. Mais ils ont plus d'équipe. Souvent, les manufacturiers, c'est des cycles. C'était pas la première fois là, que Subaru prenait une pause avec une équipe. Peut-être qu'éventuellement, ils reviendront. Peut-être qu'avec un nouveau modèle, c'est quelque chose qui pourra se faire.
Si les nouvelles WRX finissent par arriver, là, ça, c'est
ce qu'on les entend depuis un certain temps.
Oui, c'est ça.
Puis comme vous le savez, bien, j'ai encore une bonne relation avec eux. Je fais encore certains événements promotionnels avec eux. Donc, c'est sûr que s'il y avait la possibilité de remettre quelque chose sur pied, je vais le savoir. Puis je vais leur faire savoir. Soyez sans crainte.
J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu à ce que ton père t'a inculqué comme valeur puis comme talent, évidemment, parce que lui a évolué à une époque où le rallye était évidemment très différent, avec des voitures qui étaient très différentes.
Et purement amateur, là.
Oui, et il y avait que peu, si tu me corrigeras, mais il y avait à peu près pas de voitures quatre roues motrices à son époque. Les premières auront été quoi? Les Audi du début des années 80. Alors, j'imagine que les techniques de conduire, l'évolution des voitures a dû avoir un impact important sur la façon d'apprendre à piloter ces voitures-là.
Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que mon père a piloté à une toute autre époque, là, dans les années 70-80, mais il a couru quand même. Mon père a piloté quand même des voitures quatre roues motrices parce qu'en 1988, justement, une voiture qui était populaire à l'époque, c'était la Mazda 323 GTX.
GTX, ouais.
Donc, mon père avait construit une Mazda comme ça à cette époque-là. Mais c'est sûr que dans les années 70-80, c'était l'époque des propulsions et des tractions. Mais moi, mon père a conduit les deux, puis longtemps a conduit des tractions, donc en étant lui aussi un passionné de rallye, il a vu ce qui se faisait en Europe, puis les techniques de freinage du pied gauche que les Scandinaves ont amené en championnat du monde des rallyes.
Ouais.
Mon père a acquis ces techniques-là, puis il m'a montré ça, moi, à moi et mon frère, assez jeune. Puis cette technique-là se transporte directement sur une voiture quatre roues motrices. Donc, à partir du moment où on maîtrise la technique de freinage du pied gauche sur une voiture traction, ça se transmet super bien sur une voiture quatre roues motrices. C'est sûr que nous, ce qui a le plus changé dans notre époque, c'est les reconnaissances puis les notes. À l'époque, les années 70-80, les rallyes étaient à l'aveugle, comme on dit.
Ouais.
Donc, on donnait seulement quelques indications aux équipages, puis les gars se lançaient là-dedans.
Débrouillez-vous avec ça.
Débrouillez-vous. Nous, on est à une époque où... bon, c'est sûr que les vitesses sont beaucoup plus élevées aujourd'hui avec les reconnaissances et les notes qu'on fait, mais en même temps, c'est plus sécuritaire parce que les endroits très piégeux, ben, on a eu la chance de les reconnaître avant. Donc, ça a évolué beaucoup, mais c'est certain que ça prend un certain talent que mon père avait qui nous a transmis parce que il y a une portion où, oui, c'est de la pratique, des choses comme ça, mais il y a une portion à un moment donné où... Comment je pourrais dire, faut que tu l'ailles en toi, sinon tu ne pourras pas atteindre la dernière étape et la dernière marche pour être capable de gagner à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que j'ai été chanceux. Puis le fait qu'il m'ait transmis la passion aussi, c'est quand on est passionné par quelque chose, ben on est peut-être plus prêt à mettre les efforts et le commitment que ça prend. Fait que, c'est ça.
J'ai pas vraiment le choix de te poser la question et je suis très curieux de connaître la réponse. On sait que l'univers là des circuits fermés, des circuits de course au Québec est en péril. On a vu là le classique à Saint-Eustache être vendu pour être fermé par la suite. Le circuit du Mont-Tremblant qui est en péril là à chaque année. Même chose pour d'autres dans la région de Québec. Pour le rallye, c'est différent parce que on est en milieu, pas nécessairement en milieu urbain, mais on va passer sur des routes souvent provinciales. Donc, on n'est pas sur un circuit qui est fermé à proprement parler. Quel avenir attend ce type de course-là dans un environnement comme le Québec?
Moi, je garde espoir qu'il y a un bel avenir pour le rallye. Le fait que ce soit ponctuel, donc quand on se déplace sur un événement, comme par exemple le prochain événement du championnat canadien des rallyes qui est dans le bout de Montpellier, dans la petite nation, le rallye se déplace là seulement une fois par année, donc les résidents, au lieu d'être irrités, je pense qu'ils sont contents que le rallye passe. Ça amène un très bel apport économique à chaque fois qu'un rallye se déplace. Souvent, les rallyes aussi sont dans des régions un petit peu plus éloigné, parce que si on veut trouver des belles routes de gravier, naturellement, on les trouvera pas près d'un grand centre. Donc, souvent, on est dans des...
C'est encore drôle. Je roulais sur Notre-Dame il n'y a pas longtemps, puis sais-tu que ça pourrait faire la job?
Et il y a beaucoup d'obstacles à éviter.
c'est ça. Mais il y a des photoradars.
Vous comprendrez que les petites régions comme ça sont toujours bien contentes de recevoir le rallye, parce quand le cirque du championnat canadien débarque, supposons, avec 50 voitures, 50 équipes, un groupe de 5 à 10 personnes par équipe, ça fait du monde quand même là, qui mettent de l'essence, qui vont au restaurant, qui vont à l'épicerie, qui louent de l'hébergement tout le tour. Donc, moi, je continue à croire qu'il y a un bel avenir pour le rallye. Puis, le rallye, c'est une des plus vieilles formes de sport automobile qu'il n'y a pas. Là. Si on remonte à l'époque, avant même qu'il y ait des circuits, là, les premières voitures qui étaient construites, là, les gars faisaient des courses, c'était du point A au point B, là. De tel village à tel autre village, celui qui va se rendre là le premier, c'était un peu ce que le rallye est aujourd'hui. Une épreuve chronométrée, c'est du point A au point B, celui qui le parcourt le plus rapidement. Il y a des cycles où ça va mieux, où ça va moins bien, puis on dirait que le rallye a toujours réussi à survivre là-dedans. Donc, je vois pas pourquoi ça continuerait pas.
Moi, ça m'a toujours fasciné, le rallye, dû au fait que tu as évidemment un copilote. J'avais parlé il y a quelques années avec Nathalie Richard et je lui avais posé une question toute bête. Comment est-ce que tu fais pour pas vomir après 30 secondes dans une voiture quand tu es passager puis que ça roule à des vitesses comme ça? Est-ce que deux gravoles, ça peut faire le travail? Surtout quand tu es en train de lire un carnet.
Parce que tu peux pas toujours regarder en avant, là.
Moi, juste en... passager sur l'autoroute 13, assis à côté de Germain, j'ai mal au cœur. Je sais pas comment une copilote comme Nathalie est capable de faire un travail de ce genre-là. Moi, ça m'a toujours fasciné.
Non, mais les copilotes, effectivement, à ce niveau-là, sont extraordinaires. Il y en a qui prennent des gravoles ou des petites patches là, qu'on peut se mettre derrière la nuque pour prévenir le mal de cœur.
Ouais.
Mais il y en a qui ont ça en eux, sont tout simplement... Alan Hockwell, avec qui je cours depuis quelques années, lui, il n'a pas besoin de rien prendre, jamais malade, la tête dans le cahier, puis c'est des gens qui développent un feeling incroyable, des fois sans même regarder en avant, ils savent avec ce qu'ils viennent de lire comme note. Supposons qu'ils lisent qu'on a un saut avec un virage serré après, ben sans vraiment regarder, ils savent qu'on atterrit, ils ont le feeling qu'on est en train de freiner. Puis on
ils sont capables d'anticiper puis de composer avec.
C'est ça. Puis c'est un art, ça aussi. Moi, je dis toujours que j'embarquerai pas avec moi dans une spéciale à bloc. Donc, j'ai un grand respect pour les copilotes, c'est sûr.
Évidemment, bon, là, t'as effleuré la question un peu plus tôt, mais en ce moment, tu as une occupation qui est peut-être un peu différente de ce que tu as fait au cours des 10 dernières années. Peux-tu développer un peu là-dessus?
Ben en fait, c'est que j'ai un copilote avec qui j'ai travaillé, un Britannique en 2013, Craig Parry, avec qui j'ai gardé une belle relation, qui, à un moment donné, s'est retrouvé à copiloter pour un jeune qui était en train de monter les échelons. Et puis, il m'a demandé, Craig, écoute, on aurait besoin d'un ouvreur pour le rallye Monte-Carlo, qui est un rallye où il y a beaucoup de glace et de neige. Il voulait avoir quelqu'un qui comprenait bien les différences au niveau de l'adhérence avec la glace et la neige. Il était venu faire un rallye avec moi ici au Canada sur la neige et la glace. Il avait trouvé qu'on était complètement fou de ne pas rouler avec les gros crampons comme en Europe. Okay. Et puis, il m'a demandé si je voulais venir ouvrir pour eux. Puis, je suis allé là-bas, puis ça s'est très bien passé.
Et ça consiste à quoi, ouvrir, peut-être, pour monsieur, madame, tout le monde, là?
Oui, bien, en fait, en rallye, l'équipage a le droit de faire une reconnaissance du parcours. Donc, par exemple, une semaine type, les gars vont faire les reconnaissances les lundis, mardis, mercredis. Ils vont aller parcourir deux fois les routes qui vont être utilisées pour le rallye le vendredi, samedi, dimanche.
Okay.
Donc, ils se trouvent à peut-être aller voir une route le lundi après-midi qu'ils vont seulement utiliser en compétition le dimanche. Donc, les conditions changent souvent entre ce lundi après-midi-là et le dimanche. Donc, les gars, à ce niveau-là, les pilotes de priorité 1 en championnat du monde des rallyes ont le droit d'avoir des ouvreurs. Donc, des gars comme moi qui passent juste avant la compétition, à l'intérieur de 2 heures, si on veut, pour aller valider s'il y a eu des changements au niveau des conditions de route. Donc, exemple, est-ce qu'il a neigé? Est-ce que quand les gars sont passés, il pleuvait puis c'est maintenant glacé? Ou dans un rallye d'été où c'est sec, est-ce qu'il y a de la boue maintenant sur la route? Est-ce qu'il y a du gravier? Donc, on fait les derniers ajustements, si on veut, au niveau de l'adhérence, au niveau des conditions de route, juste avant que notre équipage passe. Donc, le terme, c'est ouvreur. Puis, chaque pilote, dans le fond, a son ouvreur. On développe des codes, on développe une relation. Il y a un lien de confiance qui se crée aussi, parce que je suis un peu comme ses yeux la dernière fois avant qu'il se lance à fond sur la spéciale. Puis, c'est de trouver le juste milieu entre lui donner assez d'informations pour que ce soit sécuritaire, mais pas trop pour pas le ralentir non plus. Donc, c'est assez complexe, mais j'adore être impliqué à ce niveau-là. Puis, comme je disais, ça me permet de garder un pied dans le sport qui me passionne. Puis à ce niveau-là, ben, je peux pas aller plus haut que ça. Là. C'est le championnat du monde des rallyes. C'est comme si quelqu'un était impliqué dans une équipe de F1. C'est le même concept. Donc, la compétition me manque, mais j'aime le rôle que je joue présentement à ce niveau-là.
On te souhaite quand même de retrouver ton volant très prochainement et de pouvoir continuer à performer. Félicitations, évidemment, pour tous tes accomplissements. Et merci.
10 fois champion canadien. Hein? J'aime ça le souligner parce que un athlète qui aurait été 10 fois champion en natation ou en patinage de vitesse, c'est exceptionnel. Mais là, c'est en course automobile et c'est quelqu'un du Québec, quelqu'un de chez nous, et j'en suis très, très fier. Très, très fier.
Avec félicitations, Antoine, puis merci d'avoir pris le temps de nous parler.
Et merci d'avoir un début de parole plus lent que celui sur la piste. Ça nous a permis de bien te comprendre.
Merci, messieurs, de donner un peu de temps au rallye. C'est très apprécié.
Merci, Antoine.
Bonne journée, Antoine. Bye-bye.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, on va conclure avec en répondant à quelques questions de nos auditeurs. On a Gilles qui nous demande quel véhicule on lui recommande pour tirer une roulotte de 25 pieds qui pèse 6200 livres. Il prévoit réaliser de grands voyages à Vancouver et en Nouvelle-Écosse notamment. Il a pensé au Chevrolet Silverado et au GMC Sierra 2021.
Un bon véhicule, là, c'est certain. Même avec vous prenez le moteur 5.3 litres et vous allez réaliser que finalement, la consommation d'essence ne grimpe pas tant que ça par rapport à son rendement régulier. C'est une superbe mécanique. Par contre, si vous roulez énormément, je peux peut-être vous recommander d'aller vers le moteur diesel.
C'est une excellente mécanique aussi. Une excellente mécanique.
Il y a eu quelques petits pépins de fiabilité jusqu'à maintenant parce qu'il y a une pompe auxiliaire qui est activée par une courroie et ça, des fois, ça peut faire des fois chevaux, mais règle générale, une mécanique qui est très efficace. Et là, vous allez rouler à quelque chose comme du 11, 12, maximum 13 litres au 100 avec une remorque de ce genre-là. Pour faire de grands voyages, je pense que ça peut être une motorisation intéressante. Si vous allez ailleurs que chez GM, j'ai envie de vous recommander un Ford F-150 avec le moteur 2.7 EcoBoost qui va faire amplement le travail et qui va consommer passablement moins que le 3.5 qui est peut-être inutilement puissant pour vos besoins. Mais honnêtement, oui, vous vous trompez pas avec un Silverado ou un Sierra. Sachez cependant que pour 2022, on va apporter quelques petites modifications esthétiques extérieur et intérieur.
On n'a pas eu tous les détails encore, mais chose certaine, ça ne fera pas de tort.
Ça fera pas de tort parce que la finition intérieure, ça demeure peut-être le point faible de ces camions-là.
Deuxième question, on a Chantal qui a acheté un Jeep Wrangler 4XE le 23 avril dernier. Il est chez le concessionnaire depuis un mois déjà pour régler un problème de module de recharge. Il est prévu que la pièce n'arrive que le 21 novembre prochain. Quelles sont ses options?
Ça,
Mal en patience, je sais pas.
Bienvenue chez un constructeur américain qui débarque avec une nouvelle technologie. J'ai pas le choix de vous répondre quelque chose d'aussi plate que ça. Le Jeep Wrangler 4XE, pour m'être abonné à un forum de propriétaires de ces véhicules-là, c'est un cauchemar de fiabilité. Tout le monde a des problèmes avec ça, à l'exception d'un ami qui s'en est acheté un et qui touche du bois jusqu'à maintenant. Je salue Dominique au passage. Sinon, là, c'est vraiment une histoire d'horreur.
Même le véhicule d'essai de Prince, là, le check engine, allumait sans raison.
Voilà. Alors, j'ai même pas pu en faire l'essai proprement dit parce que le véhicule a brisé au moment où je devais en faire l'essai. C'est vraiment... décevant de voir qu'on a lancé un véhicule, oui, qui a une vocation verte comme celui-là, mais qui ne fonctionne pas. Et
qui n'était pas prêt à la commercialisation.
Et j'aurais pu le prédire d'avance parce que quand on arrive avec une nouvelle technologie chez Chrysler, ben ça fonctionne pas toujours très bien. C'est la même chose du côté de chez Ford. On le voit en ce moment avec les pépins qu'on a avec le Bronco, avec le Mach-E. Désolé de vous dire que, ouais, vous vouliez avoir ce véhicule-là, mais vous l'avez acheté peut-être juste un peu trop tôt. Et j'espère que chez Chrysler, on sera capable de régler les problèmes parce qu'en plus, c'est pas donné un Wrangler 4XE. C'est une technologie qui coûte cher. Alors, bonne chance, Chantal, dans tout ça, en espérant que votre concessionnaire soit compréhensif et vous prête un véhicule en attendant. Ça serait un minimum, selon moi.
Une Sebring, genre?
Ouais. une Dart.
Merci beaucoup, Antoine. Bonne fin de semaine.
Cube Radio.